la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tout le monde pour cette 24e édition de Par le bout de la lorgnette, la dernière de l'année 2015, avec, eh bien, il faut le dire, tous nos chroniqueurs qui sont là aujourd'hui, Nico qui est de retour,
salut. Bonjour. Nico.
Et également Héloïse, après son concert à Londres.
Salut.
C'était bien, Héloïse ?
Ouais, c'était génial.
C'est toi qui chantais, Héloïse, non ?
Non, non.
J'ai chanté une chanson, effectivement.
D'accord.
Ah bon, sur scène, c'est bien
ouais,
ça.
Ouais, je suis montée, ils m'ont appelée.
Mais Valérie nous a dit que c'est de la musique classique. Comment tu chantes de la musique classique ?
Elle a fait le soprano.
Le soprano. Salut Valérie.
Salut.
Le ça bourdon, va elle a ça fait va. Le bourdon.
Pauline est là également, salut Pauline.
Salut tout le monde.
Alors pour cette dernière de l'année, eh bien, on va donner un peu nos livres coup de cœur, nos livres qui nous ont plu durant notre jeunesse ou adolescence ou dernièrement, un peu de tout. Et avant cela, on va faire un lien avec la dernière émission, car on avait une émission BD il y a 2 semaines. Nico n'était pas là pour raisons professionnelles et il y a un livre qui t'a vraiment marqué, Nico, donc ça tombe bien avec le thème d'aujourd'hui, tu vas pouvoir le présenter. Alors comme dirait Valérie, c'est un livre qui s'appelle Maudit Aland.
Aland. Aïe. Bon, bref, on ne reviendra pas sur ça. Alors, pourquoi ce livre ? D'abord, je l'ai trouvé très opportun, parce que, donc, Maudit Allende, Salvador Allende. En plus, il est bien d'actualité, ce bouquin, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça traite effectivement, pas directement du fascisme, mais ni du coup d'État hein, de Pinochet. Qui était un militaire donc au Chili, qui a pris le pouvoir dans les années 70, voilà, 73 exactement, et qui a tué pour ce faire donc Salvador Allende, qui était issu du peuple, donc qui avait mis 4 mandats à essayer de se faire élire, et qui avait réussi donc au bout de 4 mandats en parcourant en fait l'ensemble du territoire chilien, rencontrant le peuple, en mettant en œuvre beaucoup de choses en fait à se faire élire. Et puis il s'est fait donc assassiner. Alors en remontant justement la semaine dernière de Toulouse, j'écoutais une émission avec sa petite fille qui vient de réaliser un film en fait qui a pris 8 ans de sa vie, où elle interviewait donc sa mère qui était la fille de Salvador Allende, sa grand-mère, hein, et puis sa tante qui était aussi une députée. Qui avait été élu et qui a subi donc au palais présidentiel les bombardements de la junte militaire et qui a pris pouvoir. Et en fait, Allende n'aurait pas été assassiné, mais se serait donné la mort. Ça, c'est... Alors, dans le livre d'histoire, on n'en a pas beaucoup parlé. On a pensé qu'il s'était fait tuer, mais en fait, il s'est donné la mort parce qu'il préférait se donner la mort plutôt qu'on...
D'être tué par...
C'est ce que sa petite fille dit, en fait, dans le film.
Alors, dans le film, en fait, le film raconte, en fait, toute l'histoire avec des interviews de sa mère qui n'a jamais parlé de cette histoire. Ça a été un choc terrible pour toute cette famille puisqu'ils se sont exilés. Ils sont revenus il y a quelques années, donc, au Chili. Et elle n'est plus au Chili, donc elle est partie au Mexique. Elle travaille au Mexique, elle est biologiste, en fait. Voilà. Bon, c'est toute l'histoire, en fait, de Salvador Allende. Alors là, l'intérêt de ce bouquin, c'est un roman historique graphique. Bon, les romans historiques, je connaissais pas bien. Moi, j'étais pas trop rentré. C'est comme une BD. Ça ressemble à une BD. Mais derrière, il y a un fond et il y a toute une histoire. Comme un roman, en fait. Hein.
Un roman graphique.
Un roman graphique. Voilà. D'où l'appellation roman historique graphique.
Si t'étais là la semaine dernière, c'est ce que j'avais présenté aussi.
Ah, très bien. Bon. Et du coup, voilà, bon, j'ai trouvé très, très intéressant. Alors, ce roman, en fait, il est fait par 2 personnes. La première, c'est Jorge González. Donc, lui, en fait, fait les dessins et les peintures. Donc, il y a vraiment de véritables peintures. C'est très, très beau, le livre est vraiment très beau. Et ensuite, il y a le récit d'Olivier Bras. Donc, pour parler de l'auteur, en fait, il n'est pas à son premier coup. Hein. C'est quelqu'un qui est né en 1970 en Argentine, qui vit aujourd'hui en Espagne. Il a fait Hard Story, donc c'est un scénario de Voilà, c'est Altoona et qui a été publié donc aux éditions Norma Éditorial. Voilà, c'est, ça parlait du retour du Kosovo. Voilà, donc il est beaucoup sur ces thématiques-là. Hein. Voilà, il a fait aussi un autre bouquin qui s'appelle Dupuis être là avec Amnesty International. Donc c'est quelqu'un qui est très engagé sur ces causes-là. Alors, un petit résumé peut-être de ce bouquin. Donc, 25 ans après la fin de la dictature, le gouvernement chilien vient de reconnaître pour la première fois la possibilité que le poète Pablo Neruda ait été assassiné par le régime de Pinochet après le coup d'État soutenu par, il faut le dire, les Américains Nixon, qui a renversé le président socialiste Salvador Allende. Tout ça pour dire combien cette période est aujourd'hui encore ressentie par le peuple chilien comme une blessure profonde. Une déchirure, un passé dont il se serait bien passé et qu'il aimerait pouvoir effacer. Impossible, hélas. Maudit Pinochet, serait-on plutôt tenté de crier depuis notre vieille Europe? C'est un petit peu comme ça, surtout qu'il est venu vous rappeler de l'épisode il y a quelques années, se faire soigner en Angleterre. Et il y a eu en fait un procès qui a été demandé et il s'est fait arrêter en fait. Voilà.
Il s'est fait arrêter en Angleterre ?
Oui, il s'est fait arrêter en Angleterre. Oula. Là, une catastrophe écologique, on vient d'être inondé. Ouais.
Mais tu remarqueras qu'elle fait tomber l'eau, hein, pas le vin. Ouais. Oui, elle est forte quand même.
Je croyais qu'on buvait jamais de vin, qu'on buvait jamais de vin.
Donc, que sur elle. Alors, cette émission littéraire vous est sponsorisée par La Lorgnette. Nous ne boivons jamais de vin. Vas-y, Nico.
Voilà, on est complètement sortis du contexte. Mais c'est pas vrai. C'est pas
grave. Excuse Nico.
Maudit Pinochet, donc serait-on tenté de crier depuis notre vieille Europe? Maudit Allende. Affiche, en fait, Jorge González et Olivier Bras en couverture de leur album. Est-ce que c'est une provocation? Je pense pas, parce que c'est difficile de taxer le scénariste Olivier Bras de sympathie pour un dictateur, et puis bien au contraire. Hein. Et puis aussi, donc, Jorge González qui a leur actif beaucoup milité autour de ça.
C'était peut-être maudit parce que finalement, il n'a pas eu de chance.
C'est ça, il n'a pas eu de chance, mais sa famille n'a pas eu de chance.
Voilà, c'est peut-être plus
le rêve qu'il incarnait n'a pas eu de chance. Le rêve d'une démocratie populaire avec... Et donc, je reviens en fait à l'émission qui était sur France Culture l'autre soir, qui était vraiment, vraiment intéressante, puisqu'il y avait beaucoup aussi de diffusion de paroles d'Allende avant le coup d'État, et comment lui se représentait un petit peu... Le fait de faire de la politique. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est on est complètement là-dedans, nous aussi, aujourd'hui, dans notre société, c'est comment cette démocratie représentative et participative peut être une façon de réintroduire des libertés, un droit de parole direct des gens, etc. etc.
Donc, du coup, ce livre, ce roman graphique, il prend de quelle époque à quelle époque, en gros, sur cette histoire
chilienne? En fait, il démarre très tôt, il démarre au commencement, qui était Pinochet et qui sont Allende.
Voilà. D'accord, au départ.
Donc, on suit en fait toute l'histoire, hein, donc. Mais au travers le regard d'un petit garçon, hein, d'un jeune. Donc, en fait, éduqué dans le culte d'Augusto Pinochet, Léo grandit en Afrique du Sud avant de rejoindre l'Angleterre, se rapprochant sans le savoir du général Pinochet, qui vient de subir une intervention chirurgicale en urgence dans une clinique londonienne. D'ailleurs, c'est là qu'il est arrêté pour génocide, torture et disparition sur intervention de la justice espagnole. Une sacrée coïncidence qui va amener Léo, en fait, à retourner dans son pays lorsque, malgré toutes les tentatives, Pinochet est libéré, finalement, et retournera lui-même à Santiago, où il y vivra encore un petit peu et il décédera quelques années plus tard. Léo y accompagne sa petite amie, une journaliste française chargée de couvrir l'événement. Au cours de ce séjour, le jeune homme va approcher la réalité de la dictature et remettre des années d'éducation, de croyances en question. Donc c'est absolument passionnant ce bouquin, et assurément émouvant, surtout quand on est issu comme moi... De cette culture, mais moi je suis né dans une période 65-70 où j'étais petit, mais on a quand même vécu avec la dictature. On en a beaucoup parlé, c'était très présent sur les médias quand même. Hein. Et du coup, j'ai retrouvé beaucoup d'impressions, de sensations, même au travers des dessins. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Rien d'étonnant donc que le scénariste Olivier Bras soit journaliste et a notamment couvert le Chili. pour Libération et RFI. Il signe ici son, donc, son premier roman graphique, et quel roman ? Avec un très grand dessinateur argentin, donc Jorge González, qui nous invite à vivre ici une nouvelle expérience graphique et narrative singulière. Un va-et-vient entre des planches très sombres, souvent noires, hein, avec très très peu de couleurs, parfois juste esquissées, correspondant à la période de dictature, et des planches hautes en couleurs, beaucoup plus légères, correspondant à l'après-dictature. Voilà.
Et c'est quoi qui est utilisé ? C'est quoi ? C'est du pastel ? C'est des gravures ?
C'est, oui, c'est, quoi ? C'est du pastel.
C'est du pastel, ouais, ouais. C'est ce qui me semblait, ouais.
Donc je n'avais pas, moi, lu encore de romans historiques graphiques comme ça, et franchement, je trouve que c'est une très belle réussite. On y apprend vraiment beaucoup sur l'histoire du Chili, et de ces deux hommes qui ont marqué la politique de façon si différente et si opposée. Et c'est vrai qu'on voit comment se construit cette dictature, d'où vient Pinochet, comment il est, comment il se fait démonter au début par les généraux, parce que lui, il est juste caporal, etc. Comment il grimpe dans la hiérarchie, enfin, toute son histoire. C'est très, très intéressant. Et comment il se construit cette haine vis-à-vis de la démocratie, quoi. Et ce que représente surtout Allende. Bon, voilà, c'est beau, c'est tellement beau qu'on en redemande. Donc, n'hésitez pas, c'est un très beau bouquin, je pense, à faire à des gens.
Oui, à offrir peut-être à pour offrir Noël.
Pour Noël, parce
en plus,
que...
il est sorti il n'y a pas longtemps, je crois.
Ouais, ouais, il est très récent.
C'est récent,
hein.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est un très beau bouquin. Alors, ça ne s'adresse pas à des jeunes publics, oui. Ça s'adresse à des gens qui s'intéressent aussi un petit peu à la politique, mais tout le monde peut y trouver des tas de choses dedans. Je trouve que c'est. Par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, à la montée du Front National, à ces individualismes, à ces visions assez refermées sur nos systèmes démocratiques, à ces modes de fonctionnement, au manque de remise en question de nos politiques, peut-être sur des démocraties participatives, d'autres façons de faire de la politique. Aujourd'hui, je trouve que c'est un roman qui pose beaucoup, beaucoup de questions. Et en fait, quand on le met en parallèle, on s'aperçoit qu'on a rien inventé, quoi, depuis 70.
Ok, Maudit Allende, c'est un roman graphique à conseiller à tous.
Voilà, chez Futuropolis.
Futuropolis.
Édition Futuropolis.
Allez, merci, on va passer à Pauline qui est impatiente de parler, je l'ai vu pendant ta chronique, elle attendait impatiemment, et on va parler, tu as deux livres à nous présenter, je te laisse choisir lequel tu veux commencer, par lequel tu veux commencer.
Je vais commencer par Cujo, ou Cujo pour pas me faire corriger.
Cujo, Cujo, moi j'aurais dit Cujo, tu aurais dit quoi Valérie ?
Moi, j'aurais dit Cujo aussi.
Ouais.
Ils disent Kuro.
Kuro. Ah, ils disent Kuro.
Dans
quoi ? Bah, tu vois, je n'y étais pas.
En anglais, quoi. En anglais.
Ah, bah, tu vois, je n'y étais pas du tout.
Non, mais c'est pas grave.
Hein. Allende dirait Kuro.
Ouais. Kuro.
En tout cas, on dit Stephen King.
Oui, ouais. Ça, il n'y a pas de, voilà, ouais, pas de problème. Soucis, pas de doute. Du coup, ouais, Kuro. on a d'abord, on commence avec l'histoire de Joe Camber, qui est l'unique garagiste de Castle Rock, une toute petite ville imaginaire du Maine.
Alors, Héloïse, tu les fais toutes, hein. mais c'est énorme, hein, dernière de l'année.
Bon, allez, dommage qu'elle ne soit pas filmée, celle-là.
Je suis désolée.
Raconte-nous ta soirée d'hier, là. Allez, vas-y.
Non, j'étais avec Luc de l'Instant Sport.
Oui. Bah, d'accord, mais ça suffit, tout est dit, merci. Alors, Pauline, on part avec cette histoire donc, de ce monsieur qui est...
Qui est le garagiste de la petite ville de Castle Rock, dans le Maine. Comme d'habitude, on ne change pas avec Stephen King. Hein. Et donc, c'est un homme assez rustre, violent, qui vit dans une petite maison reculée, avec sa femme et leur fils de 10 ans, Brett. Donc, Brett, il a un chien, Cujo, un gros Saint-Bernard de 100 kilos, qui est hyper affectueux, le chien fidèle, merveilleux, enfin, le vrai Saint-Bernard.
J'ai peur, ça y est.
Ouais. Et un jour, en chassant un lapin, Cujo se fait morte par une chauve-souris qui lui inocule le virus de la rage. Ça se passe et sans se rendre compte de rien, Charity et son fils vont partir rendre visite à la sœur de Charity, la mère de Brett. Sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis des années et donc ils vont laisser le père seul avec le chien. En parallèle, de l'autre côté de la ville, on a Vic et Donna Trenton. Un couple qui vient de quitter New York pour s'installer donc à Castle Rock et qui vivent un moment hyper difficile dans leur couple. Vic, déjà, il fait face à des problèmes hyper durs au boulot. Il est publiciste et ils ont de gros soucis de contrat. Et il vient d'apprendre en plus que sa femme a eu une aventure avec Steve Kemp, un jeune gars de Castle Rock qui est de passage à Castle Rock. Et Tad, leur fils, leur petit-fils, qui doit avoir 5 ans, quelque chose comme ça, il a des terreurs nocturnes. Il y a une espèce de monstre aux yeux rouges qui bave dans son placard.
S'il reste dans le placard, c'est pas...
Ouais, ouais, mais bah, ça, ça l'inquiète un peu, tu comprends.
Je crois
bien
que je vais me boucher les oreilles juste à la fin.
J'aime pas les livres comme ça, Valérie.
J'ai un peu peur, en fait, de Stephen King.
Voilà. Ah ouais, bah, ça m'étonne pas.
Ah ouais, j'ai lu Cimetière, hein. J'étais pas très grande et je crois que...
Ah, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu, Cimetière.
Ah ouais, puis pour le coup, celui-là, il fait vraiment flipper. Hein, Cimetière.
Comment tu le racontes, là, déjà, j'ai peur.
Ah ben, il y a une ambiance. Ah, hein, dès le début, on sent, c'est, ça pèse.
The Thing.
Il fait très chaud, là, c'est lourd. Ouais.
Oui, mais c'est de Stephen King, The Thing, non, à la base.
Il n'y a pas de roman, The Thing.
Je crois qu'il y a... À vérifier.
Si, ouais, mais c'est pas Stephen King. Hein.
Ah, je suis pas sûre. Oh. On va vérifier.
Si, c'est vrai.
Pardon, Pauline.
Pardon. Allez-y, allez-y, c'est bien, ça inspire tout le monde.
Et donc il a peur du monstre dans le placard.
Voilà.
Le monstre du rouge qui bave.
Le monstre, ouais. Et du coup, Vic s'absente pour régler les problèmes de sa boîte et Donna se retrouve seule avec son fils, la Pinto, qui a des soucis. Et donc, ils vont au garage de Joe Cumber pour la faire réparer. La Pinto tombe en panne dans la cour du garage, une fois arrivée à la ferme. Mm-hmm. Et là, bah, il fait hyper chaud. Et là, Cujo, du coup, qui est enragé, commence à faire le siège de la voiture. Donc là, on va suivre toutes ces petites histoires en parallèle. Donc d'un côté, celle de Charity et son fils qui sont partis rendre visite à la belle-sœur. Donc là, il y a l'histoire un peu de Charity qui remet un peu sa vie en question. Son mari est violent, il n'a pas de rêve, ils n'ont pas vraiment d'avenir. En plus, Brett commence à ressembler à son père, donc à devenir lui aussi violent. Est-ce qu'elle va rester avec lui ? Là, elle découvre la vie de sa sœur qui est une vie classique et ça lui donne envie. Et Brett, de son côté, il sent qu'il y a un truc pas net, il s'inquiète pour son chien et il essaye d'appeler à la maison, mais personne ne décroche. On a de l'autre côté Vic, le mari de Donna, donc qui est parti à New York pour régler les soucis de sa boîte avec son associé. Et pendant tout ce temps, il pense à sa femme et à ce Steve Kemp là, qui a été dans leur lit. Enfin, c'est l'horreur. Et lui aussi, il sent que quelque chose n'est pas net à la maison. Il appelle. Personne ne décroche, évidemment. On a au centre de l'histoire la femme Donna et le fils, qui sont du coup dans la cour, dans la Pinto. Ils souffrent de la chaleur, de la faim, de la soif et surtout de la peur que Cujo arrive à rentrer dans la voiture et que ça se passe évidemment mal. Franchement, je me suis rarement senti autant sous tension dans un bouquin. Mais vraiment, ça pèse. J'aime bien ça, Stephen King, parce que c'est assez facile à lire. Ça, voilà, c'est des bons romans avec des
bien travaillé, oui. Ça, ouais. C'est un grand écrivain du fantastique, de films, des livres d'horreur.
Ouais, voilà, c'est bien écrit et ça se lit assez facilement. C'est accessible à tout le monde.
C'est un des plus gros vendeurs à l'heure actuelle, hein, il me semble.
Oh oui, ça m'étonnerait pas. Louise, ouais.
Mais la Pauline, quand il dit industriel de
ouais,
bouquin.
Oui, mais on retrouve toujours une ambiance un peu, voilà, bah déjà le Maine, des petites bourgades un
alors,
peu.
Par contre, il n'y a pas de science-fiction dans ce livre, apparemment, c'est la peste.
Alors, il y a le surnaturel.
Il y a du surnaturel.
Juste, voilà, le chien dans le placard. C'est très léger. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans ça ou dans Cimetière, justement. Mais du coup, voilà,
et
moi
j'ai peur des clowns.
Eh ben ouais, mais
ah bon
ouais, le clown est horriblement flippant. Hein.
T'as mal choisi ton mec alors, Valérie. Non.
Hein ?
Je dis t'as mal choisi ton mec alors.
C'est parce qu'il est comique. Hein.
Oui. Donc il va être content.
Eric, si tu nous écoutes.
Ouais, il nous écoute en plus, c'est
il
pour
nous
ça.
Écoute en plus.
C'est un roman qui t'a marqué. Ouais.
Ouais, vachement parce que ben voilà, il y a vraiment toute cette tension du début à la fin et. Et voilà, qui est pas toujours là chez Stephen King. Là, moi, je trouve, voilà, j'aime bien ce qu'il écrit, mais voilà, il y a des fois, on a peur. Là, on n'a pas vraiment peur. On est vraiment.
C'est angoissant.
Ouais,
c'est
on est angoissé. On a peur de que le chien rentre dans la voiture. Mm-hmm. On n'est pas bien. On sent presque que la chaleur. Tu vois, c'est un été très chaud. On la sent qui pèse. Donc, vraiment, pour moi, voilà, t'es dans ton salon, t'as le parquet qui craque, tu sursautes parce que t'es coincé dans ton canapé et t'as la trouille, quoi. T'es vraiment tendu. Donc, génial.
Et est-ce que t'as vu le film ?
Non, je l'ai pas vu.
D'accord.
Il paraît qu'il y a une petite nuance avec le bouquin.
Non, non.
Sur la fin.
Ça me dit rien. Le film, non. Nico, le film non plus ? Kuro ?
Non, j'ai pas vu.
Non, ok.
Kuro, non. Mais il y a pas une traduction en français ?
Parce qu'en
général, ils traduisent à chaque fois.
Cujo
en français. Cujo. Ça fait peur, Cujo. Déjà, avec le nom, t'abuses. Ouais.
C'est Papy Cujo.
Donc ça,
de Cajard.
Inutile de dire la maison d'édition, parce qu'il a dû être édité partout, j'imagine.
Ouais.
Ça a dû changer au fil des années.
J'ai lu généralement.
Moi, je l'ai, ouais, j'ai
lu. Ou les livres de poche.
Ouais. Oui,
il existe au livre de poche. Il a eu le prix British Fantasy, ce bouquin.
Ouais.
Cujo.
Ah oui, Fantasy.
En 1982.
Ah ben ouais, sorti en 81, ouais. Mais voilà, il y a des gens qui disent un peu que c'est longuet, il y a des passages un peu mous. Moi, ils m'ont juste permis de me poser un peu, quoi. Parce que vraiment, sinon, c'est l'horreur.
C'est chez Albin Michel, non?
Non, là, c'est J'ai lu.
Moi, je l'ai chez J'ai lu, mais c'est une vieille édition. Changer, donc, ouais.
D'accord, la première édition, c'était Albin Michel.
Ok, voilà. Merci beaucoup, Pauline. Allez, je poursuis.
Quelqu'un peut ouvrir le placard au fond pour être sûr qu'il n'y ait pas de...
Pas du tout. Je vais ouvrir les placards. Pavillon Robert Laffont, c'est plus Pavillon Robert Laffont, hein. C'est passé par 10-18, après c'est passé par la 13e note. Après, ce n'est plus passé parce que la 13e note, c'est une maison d'édition qui s'est montée juste pour cet auteur et qui a disparu dernièrement. Et qu'on regrette parce que c'était une très belle maison d'édition, hein, Héloïse.
Oui, j'adorais. Hein. Que ce soit la Fab, les choix éditoriaux.
C'était vraiment génial. Alors, si ce n'est pas le père, c'est le fils. Alors, je vous avais présenté dans ces émissions Coup de cœur un de mes romans préférés avec Demande à la poussière de John Fante. Mmh. John Fante, si on le dit à l'italienne, cet illustre écrivain américain avec le roman Demande à la poussière. Et je n'avais pas la volonté de parler tout de suite de son fils que j'admire également, mais seulement voilà, Héloïse, que s'est-il passé le 23 novembre dernier, il y a moins de 2 semaines?
Eh bien, ce cher Dan est décédé.
Dan Fante, qui est né le 19 février 44 et qui est mort donc il y a moins de 2 semaines à Los Angeles, qui est le fils de l'écrivain américain John Fante, d'où le problème pour Dan, car souvent, voire très souvent, quand on lit les écrits des fils d'eux, c'est souvent problématique. Et d'autant plus qu'on est le fils de John Fante. Alors je vais vous lire vite fait une critique de Gérard Guéjean de Sud-Ouest, qui est très juste, qui a dit sur ce livre « Les anges n'ont rien dans les poches » et sur la suite de ses écritures, donc c'est, je vais vous dire les années après, je l'avais noté, à moins que tu l'aies en tête, Héloïse, mais c'est dans les années 90, je crois, 96.
Je sais pas trop.
Je te le dirai après. Donc Gérard Guéjean de Sud-Ouest qui dit « Très honnêtement, j'ai craint le pire pour au moins 2 raisons. Primo, parce qu'un enfant qui chausse les bottes paternelles, ça ne marche pas, ça s'écroule. Et secondo, parce que à tout prendre, mieux vaut avoir le géniteur Dumas, le débonnaire, que Fante le rageur. J'aurais eu tort de m'en tenir là, car Dan Fante a su chasser les fantômes tout en hurlant son envie de vivre. Comme avec John Fante, il n'est pas un mot de son fils que l'on aimerait gommer, corriger, tout à la force de la confession des damnés. Sublime, comme tous les livres nés dans la douleur et l'échec. » Voilà, car c'est ça, Dan Fante qui a toujours porté son père au nu, un père qui n'a toujours pas été facile à vivre, qui était un père sarcastique, dur, critique sur ses enfants, détestant la médiocrité. Et quand on est fils d'eux et quand l'on veut épouser la même carrière, c'est plus que compliqué. Donc notre cher Dan Fante a fait des études à Los Angeles, puis est parti à New York pour faire plusieurs métiers, colporteur, chauffeur de limousine, chauffeur de taxi, laveur de carreaux, vendeur par téléphone, détective privé, gardien de nuit dans un hôtel. Alors divers métiers et histoires qu'on retrouvera dans ses autres romans qui seront En crachant du haut des buildings ou La tête hors de l'eau, ou encore Limousine blanche et Blonde platine. Après cette vie faite de travail, il décide d'écrire à 45 ans, donc très très tard, mais c'était un peu le temps pour lui de chasser ses fantômes
très
du
tard,
passé.
Très tard.
Ça peut l'être pour une carrière d'écrivain, mais pour lui il en avait besoin et on va le retrouver d'ailleurs dans ce livre. Alors il se fait publier en 45, non pas par un éditeur américain car tout le monde le refuse, mais Héloïse, par un éditeur
suédois,
français, très bien,
c'est presque pareil,
grâce à la chanteuse April March qui le met en lien, et il se fait éditer par Pavillon de Robert Laffont. À cette époque-là, il est inconnu aux États-Unis, il n'est pas encore édité, et il aura un succès en France et en Europe, et du coup, les États-Unis vont s'intéresser à lui en se disant « Tiens, le fils de John Fante, qu'est-ce que ça vaut ?» Donc il écrit d'abord de la poésie, des nouvelles, des pièces de théâtre, puis les 4 volets de la tétralogie Bruno Dante, qui est le double de Dan Fante, qui, à l'image de son père, constitue une saga autobiographique, finalement. Donc, son père est un de ses principaux modèles, tout comme Hubert Selby Jr., John Fante ou Steinbeck. Donc, je vous présente aujourd'hui Non rien dans les poches, qui commence comme cela. Je m'appelle Bruno Dante et voici ce qui m'arrive. Le 4 décembre, le service des alcooliques et malades mentaux de l'hôpital Saint-Joseph de Cupertino dans le Bronx sur Mouchelu Parkway m'a laissé sortir. On m'a relâché. pour changer. Comme à chaque cure, j'ai constaté l'augmentation des tarifs. Cette fois, je m'étais poignardé pendant un trou noir. C'était encore pire que d'habitude, ils ont failli ne pas me prendre. Tout ce que je voyais en arrivant à l'hôpital, c'était du sang, le sang qui coulait de mon ventre sur mes habits. Voilà, c'est le début de Dan Fant, de ce livre-là. Donc, vous allez me dire, c'est encore un roman d'un alcoolique qui raconte sa vie. C'est exactement ça, Valérie. Mais c'est plus que ça. Donc, dans ce livre, Dan Fant sort de chez les fous pour assister au dernier souffle de son père, John Fant. Un père qu'il n'a plus vu depuis des années. Un père qui fut un formidable écrivain avant qu'il ne se corrompe avec les studios hollywoodiens. Un père à qui ne restait finalement, à la fin de sa vie, plus qu'un gros chien qu'il adorait et qui était dépendant au whisky comme son fils. C'était un non, il était fan. C'était un pitbull, mais John Fant était fan de d'un autre type de chien qui va me revenir, mais qui n'était pas
un bulldog,
non.
Boston Terrier.
C'était un Boston Terrier peut-être. Ouais. Donc Dan Fant est mort avec diabétique, amputé, aveugle, sur un lit d'hôpital, tout seul. Tout le monde l'a laissé tomber finalement. Donc il part de New York, il sort de cet hôpital, il se rend à Los Angeles avec sa femme qui a une aventure avec un autre homme avec qui ça se passe mal. Pour assister.
C'était pas dans le Maine qu'elle a rencontré.
Non, d'ailleurs Dan Fant a écrit un article sur Stephen King extrêmement critique.
Sur quel livre ou sur lui en général
sur lui en général, sur son écriture. Mais d'ailleurs, c'est peut-être une co-écriture avec Bukowski à l'époque, il y a assez
possible.
Longtemps. Donc, ce livre qui est totalement autobiographique est finalement un vibrant et émouvant hommage à son père. Donc, c'est un livre vraiment qui est poignant, qui est droit, qui est direct comme les Fantes et qui est aussi très drôle parce qu'il a hérité ça de son père. Il est très sarcastique. Je vais vous citer un passage du livre. Donc bien sûr, c'est un alcoolique notoire qui a bu toute sa vie pour oublier les fantômes de son père qu'il admirait, qui a fini sans personne, qui a arrêté sa carrière d'écrivain pour écrire dans les studios d'Hollywood. Il se sentait pas capable d'écrire parce que comment être au niveau de son père? Donc toute sa vie, il a fait des petits boulots en essayant d'écrire à côté. Et en buvant beaucoup, jusqu'à ce qu'à 45 ans, il arrête totalement de boire jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire il y a 2 semaines.
Et son frère est mort aussi d'alcool. Hein.
Et son frère est mort d'alcool aussi, Nick Fant, ouais. Qu'il a d'ailleurs tatoué sur son bras.
Sur son avant-bras.
Ouais, c'est une histoire de famille. C'est des artistes extrêmement sensibles et qui avaient du mal à vivre avec leur époque. Donc une citation sur... Qui est quand même assez drôle, et donc sur ce côté d'alcoolique, il dit, je lui ai porté un toast en dévissant le bouchon du Mogan David, la bouteille brandy, j'en ai ingurgité une lampée. Pour moi, chevaucher le Mogan David, c'est comme sauter une gorille femelle de 300 kilos, ce n'est pas vous qui tenez les commandes, c'est le gorille qui dit quand c'est fini, pareil avec le vin. Donc le Mad Dog, le Mogan David, c'est du vin très sucré auquel était accro Dan Fant, il avait arrêté tous les autres alcools, on voit dans ce livre qu'il y a un peu de Jack Daniel quand même, mais... Donc voilà, je vais pas en dire bien plus. Voilà, il se rend à Los Angeles et il s'occupe du chien de John Fant dont personne ne s'occupe et il se rend compte que en fait John Fant adorait ce chien et que ce chien est délaissé parce que toute la famille qui vient va voir John Fant sans réellement lui parler. Et lui, pour rendre hommage à son père finalement, parce qu'il n'ose pas rester avec son père, le voir comme ça souffrir et être ce qu'il est, il s'occupe de son chien à travers son... Et c'est très beau, donc c'est Dan Fant, il boit du whisky dans son café le matin, il part sur une virée parce qu'il n'en peut plus de l'hôpital avec une prostituée de 14-15 ans, avec la carte de sa femme pour payer de l'alcool et l'hôtel. Enfin, c'est toutes des histoires, mais c'est vraiment drôle, c'est vraiment poignant.
Ouais, ça a pas l'air, ouais. C'est pas ce qu'on ressent, là.
C'est pas ce que tu ressens, mais c'est poétique et cruel. Chaque mot atteint vraiment, vraiment son but. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Et une fois qu'on a lu ça, on devient vraiment accro des autres livres de Dan Fant et on n'hésite pas à les lire. Et Louise, toi qui as lu cet auteur, j'aimerais que tu m'en dises un mot.
Moi j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment poignant et effectivement très drôle comme littérature. Après c'est vrai qu'on voit toujours la référence à son père et notamment à Bukowski aussi, Bukowski ouais. Qui est très présent je trouve aussi.
Qui était fan de son père aussi.
Oui, qui était très fan, c'est grâce à John Fante que Bukowski a commencé à écrire en fait.
C'est ça.
Ouais. Et donc voilà, c'est toute une espèce de famille de la littérature américaine que j'apprécie beaucoup et il a entièrement sa place même s'il n'était pas sûr de ça. Dans cette famille-là, quoi.
Voilà. Allez, on finit par une dernière citation. Le Jack Daniel n'avait pas encore frappé. Une image précise de mon père a surgi dans mon esprit. Une photo de lui, ma préférée. Je ne l'avais pas vue depuis des années, mais elle me revenait clairement. Dante à 22 ou 23 ans, pas plus, debout sur une pelouse, en t-shirt trempé de sueur, à contre-jour d'un soleil ardent. Le pantalon retroussé comme pour jouer au baseball, main sur les hanches, tête inclinée sur l'épaule. Il regardait l'objectif avec insolence. Un Dante jeune, fier, qui mordait dans la vie. Mes larmes redoublèrent. Voilà, c'est l'hommage à son père de ce livre. Et voilà, que je vous conseille tous.
Mais oui, c'est dommage parce que, enfin, on peut se le procurer que d'occasion maintenant.
Voilà, il n'est plus édité parce que donc cette maison d'édition qui s'éteint il y a quelque temps, 13e note, qui avait vu le jour pour re-imprimer les ouvrages de Dan Fant et qui est parti, c'est bien triste.
Après, peut-être du coup, chez 10-18, parce que son père est chez 10-18, alors ouais. Je sais pas, peut-être avec son décès, ça va déclencher quelque chose, je sais pas.
Rééditer.
J'espère, en tout cas.
Ok. Allez, on poursuit avec Valérie ou Héloïse qui veut parler. Valérie,
allez, Valérie.
T'as, oui, t'as une surprise.
T'as une surprise.
Non, ça, alors c'est pas une surprise, si tu avais annoncé de qui je parlais, ça compromettait mon début de chronique. Mais avant mon début de chronique, j'avais écrit un petit préambule, en fait.
Un petit rap, je crois.
Non, le rap burger, je laisse ça à Nico. Non, je voulais...
Burger.
comme c'est la 24e émission et qu'on est bientôt le 24 décembre, j'avais envie d'être super optimiste et j'y arrivais pas ce matin. Parce que j'ai décidé hier soir les livres dont je parlerai. Et en fait, en préambule, moi, je voudrais vous dire que j'apprécie beaucoup de pouvoir lire, de pouvoir vous faire partager mes lectures. Vous pouvez sourire, il n'y a rien de grave dans mes propos. D'autres lectures, donc les auteurs en tout genre, les Français, les étrangers, les classiques, les polémistes. Donc j'espère que l'avenir proche qui se joue très bientôt nous permettra encore de pouvoir avoir accès à cette diversité culturelle que les livres nous véhiculent, que les bibliothèques, les librairies, les CDI resteront des facteurs d'ouverture d'esprit. Et donc, je compte sur vous parce que j'ai très, très peur de ce qui pourrait se passer si un jour on nous fermait l'accès à tous les livres. Bref, il est encore temps de faire votre procuration. Voilà, donc c'était mon petit préambule. Ah,
en fait, c'est un texte que tu as écrit que tu nous présentes. Merci.
C'est donc
Héloïse.
Non, mais c'est très juste, merci.
Non, c'était, voilà, j'avais envie de...
Non, c'est
de,
très beau, Valérie.
Je suis absolument
très bien.
Pas...
Donc tu nous présentes Mein Kampf.
Non, mais on est une radio libre. Et
oui,
dans une radio,
voilà,
libre,
mais
il y a le mot
un...
radio, certes, mais
c'est
aussi
ça.
Libre.
Voilà.
Et la liberté de penser, de dire, c'est fondamental. Donc on a le droit de dire ce qu'on pense.
Voilà, mais là, c'est ça. J'avais envie de vous exprimer ma peur par...
Surtout quand c'est...
Les livres seront les... Les livres seront peut-être les premiers touchés. Donc
le 24 décembre, à 24 heures.
Hein, voilà.
Quand le Père Noël descendra du ciel, sans cadeau, parce qu'il dira non, les cadeaux sont censurés maintenant.
Voilà, c'est ça.
Vous penserez à Valérie.
Voilà, c'est ça, exactement. Parce que vos cadeaux qui ne seront pas fabriqués en France, vos livres qui ne seront pas écrits en France. Voilà, donc c'est tout. Sinon, sur une touche plus gaie, je voulais vous demander, est-ce que vous connaissiez Alberto Caiero ?
Non, ça
bien évidemment.
Donc Ludo ?
Non, je connais
d'accord,
pas.
D'accord, peut-être tu connais Alvaro de Campos.
Non plus.
Alors, Ricardo Reis.
Ça, déjà, ça commence à me dire quelque chose, mais on n'en est pas loin. Vas-y,
Fernando
continue.
Pessoa.
Oui.
Ah, ben c'est la même personne. En fait, Fernando Pessoa, je vais vous parler un petit peu. Ce sera très court, parce que le livre Coup de cœur de Fernando Pessoa fait à peu près 15 pages, écrit gros et recto. Donc ce sera très court. Donc je vais vous parler un petit peu de Pessoa. Enfin, tout le monde le connaît, donc je ne vais pas trop m'arrêter dessus. Mais
tout
il y avait
monde
quelques...
le connaît
oh, beaucoup
enfin,
le connaissent.
On le connaît, non, mais c'est vrai qu'il y a peu
portugais.
De personnes qui le lisent. Quoi.
C'est un poète portugais.
Tu dis ça avec des dents, un poète portugais.
Non, pas avec des dents. S'il est connu, voilà.
Non, un poète lisboète.
Mais c'est pas le livre de l'intranquillité qui
dans
est...
C'est ça, le livre de l'intranquillité, l'affaire Vargas.
Moi, je ne connais pas.
Voilà, et en fait, là, le livre qu'on m'a mis un jour dans les mains, c'était donc Le bureau de tabac. Et c'est des livres que j'aime beaucoup parce que...
Parce qu'ils sont courts.
Ils font 15 pages. Ouais. Et c'est surtout qu'en fait, ils respectent la langue, j'allais dire, natale de l'auteur. Parce qu'il y a le texte écrit donc en portugais et il y a le texte écrit donc traduit en français. Il y a plusieurs éditions puisque chaque traducteur a pas apporté exactement à la minute près, enfin, au mot près la même chose, pour que ça ait du sens, pour que ça sonne, mais on est sur chaque édition à peu près sur la même traduction. Donc Fernando Pessoa, c'est un poète lisboète, enfin un écrivain lisboète, puisqu'il a fait des tonnes d'écritures. Et en fait, c'est monsieur hétéronyme. En fait, il a écrit sous plus de 60 ou 70, même certains disent 80, titres différents. À chaque fois, il se donnait des pseudos. Et les quatre que je vous ai cités, en fait, eux, par contre, ont beaucoup écrit. Et à chaque écrivain, il a eu un style différent. C'est-à-dire que Fernando Pessoa avait sa façon d'écrire. Álvaro de Campos avait sa façon d'écrire. C'est comme si aujourd'hui, on nous disait que, ben, par exemple, Céline Apollinaire et, je sais pas, et d'autres étaient en fait une seule et même personne. Et alors que les styles sont différents. Si on regarde Ajar, par exemple, il avait quand même toujours le même style. Enfin, moi, j'ai pas trouvé une grande différence
de
style.
Ajar et Romain Gary, oui, effectivement.
Voilà, c'est à peu près la même chose. Là, par contre, ses écrits, ils sont très variés selon le pseudo, entre guillemets, l'avatar qu'il va choisir. Voilà. Donc, il a une grande, grande œuvre, hein, notamment l'affaire Vargas et le livre de le...
J'ai perdu l'intranquillité.
L'intranquillité. Et donc là, moi, le livre que j'ai dans les mains, je ne peux pas vous le résumer, parce qu'il fait 15 pages. Et en fait, c'est un... quand je l'ai lu, je n'ai même pas fait attention que c'était de la poésie. Et je pensais que c'était un roman court, mais en fait, non, c'est une poésie. Et les premiers vers, je vais vous les lire, ils sont peut-être qu'à certains, ils vous parleront. « Je ne suis rien, je ne serai jamais rien, je ne peux vouloir être rien. » À part ça, je porte en moi tous les rêves du monde. Donc, l'auteur est enfermé dans sa chambre, en haut de son immeuble, et il regarde à travers la fenêtre, et il fait une introspection, en fait. Et il regarde, et en face de lui, il a un bureau de tabac, donc d'où le titre en français, bureau de tabac, tabacaria, pardon, en portugais. Et il va parler de ce qu'il voit, mais on a l'impression que c'est plus un jugement de sa vie, enfin un bilan sur sa vie, que vraiment de raconter les faits de ce qu'il voit. C'est très beau, il y a des paroles très fortes justement sur la vie, sur l'amour. Et du coup, je vais vous lire un autre passage, c'est surtout sur le... il est un peu désespéré quand même, coincé dans sa chambre. Et il écrit des choses très belles comme « Il mourra, je mourrai ». Il laissera son enseigne, je laisserai mes vers. Un jour, son ancienne y disparaîtra, mes vers disparaîtront. Plus tard, mourra la rue où se trouvait l'enseigne et la langue dans laquelle furent écrits ces vers. Puis, mourra la planète tournante où s'est passé tout ça, sur d'autres satellites, d'autres systèmes, quelque chose qui ressemble à des hommes, continuera à faire des choses qui ressemblent à des vers. Et ainsi de suite.
C'est un recueil de poésie. Il y a plusieurs poésies à l'intérieur.
Non, là, c'est qu'une seule poésie
sur 15 pages. Voilà,
c'est intéressant, pas vraiment. Enfin, moi, je suis pas très. Enfin, on en discutait une fois. On disait, on n'a jamais fait d'émission sur les livres de poésie. Je me suis pas trop manifestée à ce moment-là, mais parce que.
Il faudrait qu'on en fasse. Mais tu as raison. Tiens, la première de janvier, allez.
Allez,
bim.
Les poèmes. Ouais, allez.
Les poèmes.
Mais c'est vrai que c'est pas la poésie telle qu'on peut l'entendre des fois. La preuve, c'est que moi, quand...
C'est quelle époque, Fernando
Il est né 1884, me dira Nico, c'est ça? Et il est mort en 35, je crois, 1935.
Le micro Nico.
Je crois que c'était... Enfin, j'ai pas noté, je crois pas là,
je fais des rimes. Ouais. Je fais de la poésie.
Il est né en 1888.
Ah ouais, tu vois, j'ai donné 4 ans de plus, ouais.
Voilà, il est mort en 1935.
Okay,
et c'est quelqu'un qui, en fait, fait beaucoup voyager dans ses écrits. Et pourtant, lui, bon, il a vécu un peu en Afrique du Sud sur une période d'une dizaine d'années. Et après, c'est même plus qu'il n'a plus quitté le Portugal, c'est qu'il n'a plus quitté Lisbonne.
D'accord. Il n'a plus quitté sa chambre.
Et on a découvert dans ses appartements, quand il est décédé, là,
ouais.
On a découvert une malle avec 27 543 textes.
Ah bon?
L'homme aux 30 000 textes, il l'appelle les Lisboètes.
Il n'avait pas évité
à Lisbonne. Il faut aller à la Bibliothèque nationale de Lisbonne. Et il y a toutes ces œuvres.
Ouais. Et il existe même, les tours opérateurs font faire aux personnes qui le souhaitent, en fait, un peu comme sur les traces donc, d'Harry Potter, tout ça. Vous pouvez aller visiter Lisbonne sur les traces donc, de Fernando Pessoa, tous les endroits où il s'est passé des choses, où il a été inspiré. Je pense que... j'ai toujours envie d'aller à Lisbonne et si j'y vais, je ferai le tour en fonction de cette
ville. C'était un critique aussi. Hein. C'était quelqu'un qui envoyait des pamphlets, qui écrivait beaucoup de choses.
Parce qu'en fait, il n'était pas sûr de lui, il n'était pas sûr de son écriture. Et donc, il avait quand même un gagne-pain pour vivre, hein, comme beaucoup. Et il travaillait donc, comme traducteur dans un journal. Donc, c'est là où, entre autres, il a rencontré un des amours de sa vie, mais celui qui a le plus... marqué, mais c'était pas la, l'écriture était pas sans gagne-pain. Bon, peut-être ça vient de l'époque aussi, mais aussi je pense un manque de confiance en, en son écriture, en ses œuvres. Voilà.
D'accord. Tu nous rappelles le titre
Oui, le c'est Bureau de tabac.
Bureau de tabac, c'est quel
Il est mort assez jeune, hein, il est mort à 47 ans. Hein,
c'est, ouais. C'est joli.
Ouais, là c'est aux éditions, je sais pas comment on dit.
Elles sont très jolies ces éditions. Je
trouve. Mais c'est très superbe. Ouais.
C'est très simple, mais ouais. Très
mais sobre. Mais je sais que ça a été voilà, ça a été traduit par plusieurs personnes, donc ça a été édité a priori par plusieurs. Plusieurs maisons d'édition, il y a tout le temps une préface et une postface qui est assez intéressante.
Dès que c'est de la poésie, très très souvent, tu as quand même la langue ouais. originelle et, ouais. et la traduction.
Bah oui,
ça se fait souvent,
la traduction
parce que
de la
tu
poésie,
dis c'est très
sinon,
bien. Sinon, ouais.
voilà. Après, il y a des... Voilà. Enfin, moi, je sais que j'ai, là, j'ai un autre texte, donc ben, je vous parlerai peut-être une autre fois, mais là, pareil, c'est la même chose. C'est un texte qui a été écrit et en turc et en français. Et
même ça, si c'est un dictionnaire franco-turc.
C'est ça, voilà. Mais même si on ne lit pas... même si on ne lit pas la langue... Et je trouve que, par curiosité, j'ai lu en portugais, je ne parle pas un mot de portugais, le poème en portugais, ouais. pour,
ah, c'est,
mais c'est super.
Très, super, très belle sonorité.
C'est chantant.
Ouais. Ouais, et pourtant, le propos n'est pas gay. Enfin, dans le livre, le propos n'est pas forcément gay.
Tu peux
mais
nous
c'est...
le faire, hein, Fado.
Allez, fais-nous le
tu peux nous le faire,
portugais,
là. Fado, attends, en liquide à balle, s'il te plaît.
Si vous dansez le Fado en même temps que je le
Allez, on va danser
lis,
le Fado.
Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Bravo!
Alors ça veut dire quoi?
C'est ce que je vous avais dit.
Super.
Je ne suis rien, je ne serai jamais rien.
Super Valérie, merci beaucoup. Voilà. Et elle vend vachement bien les livres. Elles sont, ils sont peut-être pas plus intéressants que les notes, mais elle le vend vachement bien.
On a vachement
bien. Et tu devrais bosser dans les mutuelles à l'heure actuelle.
C'est nos livres préférés, donc.
Allez, une dernière chronique, après on fait une pause musicale. Héloïse, je peux pas te dire vite fait pour nos coups de cœur. L'enfant bleu.
Je vais essayer.
Non, mais. L'enfant ou sinon, on fait les,
on
la
fait
pause
la
musicale.
Pause maintenant,
ouais,
si tu veux.
Faire la pause et on redémarre après.
Même si je suis pas d'accord avec le choix, je tiens à dire que j'ai été censurée voilà. aujourd'hui.
Oui, c'est pour ça. Radio libre et on est censuré. Ça commence. Ça. Bravo.
Et
j'ai
oui.
peur.
Et oui, elle m'avait choisi un morceau inaudible. Donc, du coup, on va écouter Indizara avec Inksikmik. Voilà. Du turc.
Mais c'est cool.
Imik simik afus hufus win duino iran ftu imik simik afus hufus Winduino, Iranuftu, I will take the train, leave the sun for the rain, and come downtown, town, town, and come downtown, town, town. I spend money and time, lose friends and cry, more than a motherless child, I will come downtown to you now, 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 to you now. Now, now, imik simik afus hufus, wink dwino iran uftu, oh, imik simik afus hufus, lih sfar tasaynu, lih sfar iwalinu, lih tons tafusinu, agara. Afus hufus, winged we know, iran uftu, awi mi, simi. Afus hufus, winged we know, iran uftu, I will take the train, leave the sun for the rain, and come downtown, town, town, and come downtown, town, town. I spend money and time, lose friends and cry. A motherless child, I will come downtown to you now, 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 to you now, now, now. So baby, won't you please open the door and let me in till we can forget all, just you and me, forever down.
touch, your kiss, your smile, your lips. I need to see you to feel you right here. So I will leave the sun for the rain. So I will leave the sun for the rain. No, I will leave the sun for the rain and come downtown, town, town to you now, downtown. For the rain now, no, I will leave the sun for the rain and come downtown, town, town, and come downtown, town, town.
C'est vrai, absolument. Et Héloïse.
Oui, ce soir, il y a l'inauguration du promontoire des songes.
L'atelier des songes.
L'atelier des songes.
Oui, je l'ai annoncé dans mes informations. D'accord, 19h, l'inauguration. Il y a, oui, bien sûr, il y a journée porte ouverte aujourd'hui et demain. Ouais. Sachant que si vous entendez cette émission lundi, n'y allez pas, hein, parce que c'est une rediffusion et ça ne sera pas ouvert.
Et Louise, c'est qu'aujourd'hui, quoi.
C'est qu'aujourd'hui et demain.
Mais aujourd'hui, de avant-hier, si on écoute lundi.
Ou avant-hier et avant-avant-hier, si voilà. On écoute lundi. Héloïse, L'Enfant Bleu.
L'Enfant Bleu d'Henri Beauchaud.
Voilà.
Donc je vais vous dire deux, trois mots sur Henri Beauchaud, qui est un grand auteur qui est, à mon sens, mal reconnu, en fait, parce qu'il a une œuvre vraiment conséquente. Il a écrit beaucoup de choses, du théâtre, de la poésie, des romans. C'était vraiment un grand monsieur. Il était belge et à la base, en fait, il était psychanalyste. Voilà. Il a fait des études de psycho. Il a travaillé à Paris pendant quelques temps, en Belgique également. Et il a écrit énormément de choses. Et à chaque fois, c'est très beau. C'est des choses très belles. Toujours en relation donc avec la psychanalyse. Et avec, il a des thèmes phares comme ça. Donc la psychanalyse, la mythologie. Il était vraiment un érudit aussi à ce niveau-là. Donc voilà. Et donc ces petites indications sur Henri Beauchaud vont nous aider à comprendre... ce texte-là, qui est un texte assez particulier dans son œuvre, qui est un peu à part. Donc, L'Enfant Bleu. Donc, c'est l'histoire de Véronique, qui est donc psychothérapeute à Paris et qui s'occupe d'un enfant qui s'appelle Orion. Il a 13 ans et il est psychotique. Donc, c'est un enfant psychotique, autiste, donc qui est gravement perturbé. Et qui a du mal dans tout ce qu'il fait au quotidien. Il a du mal à s'exprimer. Il s'énerve très vite. Enfin, il est très nerveux et il a des choses à dire. Il veut s'exprimer. Il veut dire des choses, mais il n'y arrive pas. Et du coup, ce qui fait qu'il devient, très violent. C'est un enfant qui est très violent. Il a peur, par exemple, quand il est dans la rue, il a son monstre, en fait. Il a peur il appelle ça le démon de Paris. Donc c'est un monstre, il le décrit plusieurs fois dans le livre, et qui peut l'attendre à chaque coin de rue, dans le métro, etc. Et quelque chose de très concret pour lui, pardon. Et donc c'est cette relation, en fait, entre Véronique, donc sa psychothérapeute, et donc ce jeune homme. C'est une relation qui va durer 13 ans. Donc il a 13 ans quand elle commence à s'occuper de lui. Et à la fin du livre, il a 25 ans. Et quand leur chemin se sépare, il a 25 ans. Donc c'est une vraie relation à part entière, avec ses hauts, ses bas. Et on suit ça pendant tout le livre, et on est vraiment subjugué, on est en attente, en fait, des progrès de cet enfant. Et en fait, les progrès sont vraiment infimes. Enfin, et des fois, on est impatient, en fait. On a envie qu'il s'en sorte, on a envie qu'il... Et c'est pas si simple que ça, quoi, finalement. Et donc, c'est une très belle relation, c'est une belle une amitié. Et donc, la chose importante, c'est que Véronique va proposer, en fait, à Orion, pour s'exprimer, pour canaliser, en fait, toutes ses angoisses, elle va lui proposer de faire du dessin, de faire de la sculpture. Ça va passer, en fait, par le biais de l'art plastique. Donc c'est vraiment passionnant, et on voit, en fait, les efforts et les progrès qu'il fait au niveau du dessin, comment il arrive à dessiner ses peurs, à dessiner tout ça. Et c'est vraiment, c'est magnifique. Et il y a des descriptions, en fait, des pages entières, en fait, de descriptions de ses œuvres.
De l'art brut.
Oui, voilà, c'est de l'art brut, oui, tout à fait.
Ça fait appel au mythe, Orion.
Oui, tout à fait, c'est une référence mythologique.
C'est une référence mythologique.
Oui, oui. Donc l'écriture de ce livre est très douce comparée à la violence du propos. C'est très doux et c'est comme, je sais pas, on lit le roman comme si on était sur une barque dans un lac, on chemine tout doucement. Enfin c'est un voyage, ce livre, vraiment c'est un voyage tout doux et très intéressant.
C'est une histoire vraie, on le sait ou pas?
C'est tiré de son expérience. Ça, ouais, voilà. En fait, Orion a vraiment existé. Et c'est en fait, il s'appelait Lionel. Et donc Véronique, c'était Henri Beauchaud, on va dire. Ah oui. Henri Beauchaud s'est occupé de cet enfant à Paris. Et donc Lionel, par le biais de l'art également. Et donc il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Lionel, l'enfant bleu d'Henri Beauchaud. Et donc c'est un livre où sont exposées en fait les œuvres de Lionel. C'est vraiment superbe. Et dans ses œuvres, on voit beaucoup de labyrinthes, des îles, des étoiles, beaucoup de constellations. Et je vous invite vraiment à regarder le travail de cet homme, parce que c'est son métier maintenant. Enfin, il expose à Lausanne. Il est devenu quelqu'un de très reconnu dans le milieu de l'art brut. Et il vend ses œuvres. Donc voilà. Donc c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui marque beaucoup de monde. Je t'en prie, Nico, vas-y.
Et c'est un livre qui a été écrit quand? À peu près.
Alors ça, je ne saurais pas te dire.
C'est ce livre qui t'a marqué ou c'est l'ensemble de cet auteur?
Alors l'ensemble, mais particulièrement celui-là. Après, j'ai commencé par celui-ci. Et après, évidemment, j'ai continué parce que
là, c'est Babel. Donc
on devient accro à Henri Beauchaud dès qu'on commence. Mmh. Et après, je ne sais pas la date.
Non, mais c'est plus par rapport à... Parce que l'art-thérapie, maintenant, on le voit de plus en plus. Oui, à l'époque,
c'était 92, a dit Dico. C'est ce que tu as dit, 92?
C'est un roman belge qui est paru en 2004.
2004, mais chez un autre éditeur. Donc peut-être que c'était une réédition... Parce que Babel, c'est pas Actes Sud.
Si.
Ah si, donc
c'est la collection de poche d'Actes Sud.
Mais il est paru vraiment en 2004. Il n'y a pas eu de. C'est pas une réédition.
2004.
C'est 2004.
Bon, il a 12 ans quand même. Mm-hmm. Enfin, il va avoir 12 ans.
Bon, ben voilà, c'est d'une extrême beauté et c'est à conseiller.
Ça explore le lien entre l'art et la folie, quoi, un petit peu.
L'art, la folie, oui.
C'est ça, c'est le principal thème, quoi.
Les handicaps dans la vie, tout ça. Mais
il est né psychotique Lionel,
Orion et Lionel, du coup, oui. Tout à fait.
Merci Héloïse, l'enfant bleu à conseiller d'Henri, comment on dit, Beauchaud ?
Henri Beauchaud.
Beauchaud.
Baucho.
Baucho. B-A-U-C-H-A-U.
Allez, laissez parler Pauline, que les beaux-parents l'écoutent auprès de moi toujours, Pauline.
Auprès de moi toujours, oui. Kazuo Ishiguro, un auteur d'origine japonaise, mais qui a grandi en Angleterre, qui a vécu toute sa vie en Angleterre. Et donc, il écrit auprès de moi toujours. Alors oui, je sais, le titre est vraiment pas génial.
C'est surtout sa traduction en anglais qui est l'air terrible.
Never Let Me Go, bien mieux.
Ouais, ça sonne mieux quand même.
Oui, parce que, y a pas la...
Nico, il est en train de rechercher sur Internet. Nico Chamigo, il ne trouve pas. On va lui donner le livre.
Mais bon, ça présage pas du tout ce qu'il y a dans le bouquin. C'est pour ça que j'en parle, parce que on voit le titre. Voilà, on se dit roman à l'eau de rose.
Ça fait penser au livre de Ludo d'il y a un mois.
Peut-être un
Love
peu,
Game.
Ouais. Bon, faut peut-être pas exagérer quand même.
Non, mais si tu l'as choisi, c'est que ça doit être autre chose.
Hein. Non, c'est pas du tout ça. On est en Angleterre à la fin des années 90. C'est une Angleterre assez comparable à celle d'aujourd'hui. Mais alors on suit du coup Cathy H, qui nous dit qu'elle est accompagnatrice. Elle est chargée en fait d'offrir sa compagnie à des donneurs d'organes afin de rendre les dons moins difficiles et d'améliorer la rémission pour le prochain don. Donc elle fait ça depuis 11 ans et aujourd'hui elle peut choisir les donneurs qu'elle accompagne. Et donc elle va choisir son amie d'enfance, Ruth, qui a son troisième don, qui est souvent le dernier. Et donc ça va être l'occasion pour Cathy de revenir sur son enfance, sur son adolescence. Donc là, au départ, on est un petit peu perdu, on sait pas bien, parce que bon, on est dans l'Angleterre des années 90, mais ça ressemble pas vraiment, on connaît pas ça, des gens qui font des dons à répétition, des dons d'organes à répétition, c'est un peu bizarre. Et donc Cathy nous raconte qu'elle a grandi à Aylsham. Ça ressemble, c'est un pensionnat anglais qui a l'air plutôt classique. C'est après que les enfants semblent pas du tout connaître le monde extérieur. Et ce sont des gardiens qui s'occupent d'eux. Alors malgré le terme, malgré le fait qu'ils soient enfermés, malgré le côté gardien, ils n'ont pas du tout une enfance triste ni difficile. Les gardiens sont hyper soucieux de leur bien-être, qu'ils soient heureux, qu'ils se rendent compte de l'importance qu'ils ont dans le monde. Et du coup, les enfants, ils ont une vie assez douce, assez heureuse. Et en grandissant, ils vont même, c'est même prévu qu'ils quittent Elsham mais qu'ils se mêlent au monde extérieur. Ils ne sont pas enfermés. Et pourtant, on ressent un certain malaise quand même. Voilà, il y a ce contexte un peu particulier. Et petit à petit, Ishiguro, il va nous donner des petits indices, des petites fêlures. Et notamment, quasiment au début du livre, Cathy et son ami Tommy qui parlent et qui parlent de ce qui va leur arriver, des dons et le reste.
Ah, c'est les enfants qui donnent leur.
Voilà. Finalement, ce sont, en fait, on comprend que les personnages, les enfants, qui sont tout à fait conscients de leurs conditions, ils sont des clones qui vont servir de banque d'organes. Et point, ça s'arrête là. Ils grandiront pas.
C'est un roman d'anticipation, hein, c'est ça.
Ouais, mais alors c'est très particulier parce qu'on n'est pas dans l'anticipation classique ou de la SF. Ouais. Voilà, il y a ce truc-là qui est là. C'est des futurs donneurs d'organes, mais justement, contrairement à beaucoup de romans d'anticipation qui traitent de ces sujets, il n'est pas du tout question de révolte ou de questions d'ordre éthique, de questions de société. C'est pas du tout le sujet. C'est là, c'est en filigrane un peu, mais ça raconte l'histoire d'humains, de Katie, de Ruth, son amie, et Tommy, qui vivent leur vie, qui grandissent paisiblement et qui restent finalement totalement passifs à leur sœur parce que c'est là. Leur vie est dédiée à ça. Et c'est pas du tout le thème du livre. Le thème du livre, c'est l'humain, c'est l'innocence, c'est grandir, c'est. Et du coup, forcément, ça crée une ambiance un peu révoltante, mais qui est à la fois très paisible, parce que, Cathy, qui nous raconte l'histoire, c'est quelqu'un de très posé, avec ce petit côté enfant qu'elle a gardé un peu toute sa vie. Donc, l'écriture, c'est pareil, elle paraît un peu simple, mais ça traduit toute cette innocence-là des héros. Et du coup, on passe par plein d'émotions, la tristesse, la détente, et aussi la révolte. On est révolté, qui ne se révolte pas, puisqu'on s'attend à ça, et c'est pas du tout le cas. Et du coup, ouais, les personnages, ils sont très bien construits, et l'héroïne, elle est vraiment très, très attachante, Cathy. Donc voilà, c'est vraiment assez puissant comme livre. Voilà, on a une sensation de tristesse, donc on est aussi ému, on est révolté, on est finalement hyper chamboulé, quoi. Donc,
mais Cathy, c'est elle qui va chercher les enfants pour leur.
Non, Cathy, elle a grandi à Elsham, mais elle est aussi, elle, destinée à donner ses organes, d'accord. Mais pour l'instant. Pas son clone, mais du coup son origine, je ne sais pas comment l'exprimer, n'a pas besoin de ses organes. Donc, pour l'instant, son rôle, c'est d'être accompagnatrice et donc d'accompagner les gens entre leurs dons.
On imagine qu'à la fin, elle va devoir être accompagnée à son tour.
On imagine, oui.
On imagine, ouais. On ne dira rien.
T'as vu le film ? Enfin, j'ai toujours la même
question. Oui, j'ai vu le film, ouais, parce qu'il y a un film qui a été tiré.
Moi, j'avais bien aimé.
Ouais, le film est très réussi, le bouquin et le film.
Le film porte le même nom ? Non.
Si, Never. Enfin, ils ont gardé le titre anglais, je crois. Je sais pas. Mais
parce qu'il y a eu plusieurs films, très touchant aussi. Il y a un autre film qui a été fait sur le fait qu'on élève des gens en leur faisant croire qu'ils vont être.
Eh bien, oui, il y a. Avec Ewan McGregor, là. Ouais. Et.
Ça me dit quelque chose.
Je ne sais plus le nom.
Iceland,
voilà.
Ah. Iceland, c'est un peu du même contexte. Quoi.
Voilà, mais là, ce n'est pas du tout la même idée, parce que pour le coup, là, il y a vraiment chez eux la révolte, voilà, je quitte l'espace. Ouais. Et là, ce n'est pas du tout ça.
Ce n'est pas trop lent comme histoire.
C'est très lent, mais c'est très touchant, c'est paisible. C'est vraiment, je pense, le mot, c'est paisible.
C'est un japonais.
Ouais.
Oui, c'est ça. Merci Valérie.
Ouais, oui, c'est ça.
Il écrit en anglais.
Il a été élevé en Angleterre, mais dans.
Il écrit dans l'anglais.
À la base, l'objectif, c'était de retourner au Japon avec ses parents, donc il a été élevé quand même dans une tradition japonaise.
Tu sais où il est né, Nagasaki, donc.
Ouais.
Le retour, c'est.
En 54, ouais.
On ne sait pas à quelle main il écrit, la droite, la gauche ou celle du milieu.
Et puis c'est lui qui a écrit les vestiges du jour, donc voilà, c'est quand même. Ouais. C'est que de très beaux livres. Voilà. Ouais, l'écriture est fantastique, c'est vraiment très bien.
C'est chez Folio.
Ouais.
Valérie, est-ce que tu as eu ton expert ou ton voisin pour pouvoir repousser un peu cette émission ou pas du tout? On est pressé.
Écoute, j'ai pas de message, je pense qu'il va falloir que j'y aille. L'expert d'accord. Doit être
donc il nous reste 2 minutes pour présenter chacune votre dernier livre. C'est compliqué. Qui veut parler? Qui laisse son tour?
Je laisse ma place.
Non, mais...
Allez, à toi, Héloïse.
Moi, je voulais vous présenter la biographie de Gaston Gallimard, écrite par Pierre Assouline. Alors, voilà, c'est un demi-siècle d'édition française. Donc, c'est prodigieux. Vraiment, Gaston Gallimard, c'est mon idole. Je l'adore. Et ce livre est passionnant. Ça se lit comme un roman. Il a une vie incroyable et il a fait plein de choses très drôles et très intéressantes. Et c'est mon chouchou, voilà.
D'accord. Il a une bonne bouille.
Ouais. Ouais, ah oui, oui, oui.
C'est lui qui a monté les éditions?
Oui, bah tout à fait.
D'accord, c'est lui qui est à la base, qui est au départ de
Gallimard. Il a été le patron aussi du théâtre du Colombier à Paris. Mmh. Il a monté la série Noire, il a inventé Détective Magazine. Enfin, il y a eu plein de choses assez étonnantes sur sa vie.
Une des rares personnes qui peut dire la littérature française, c'est moi.
Oui. Ah ouais, mais vraiment.
Ouais. Après tout ce qu'il a lu et tout ce qu'il a produit.
J'avais apporté aussi les lettres à la NRF de Céline, parce que justement, c'est la correspondance très très drôle entre Céline et Gaston Gallimard, et tous les deux ils ont une verve et un humour incroyable, et ils s'envoient des pics à longueur de lettres, et c'est génial. Ah oui, en plus Gaston écrivait très bien, c'est un homme parfait, quoi.
Tu lis une page de l'un, une page de l'autre, et c'est presque un dialogue.
En littérature, hein.
Oui. Ah bah même.
Mais tu l'as rencontré, toi?
Ah bah non, il est mort, il est décédé, hein. J'ai rencontré son fils.
D'accord.
Mais c'est pas pareil.
C'est l'année dernière, non, que tu avais été... Tu avais été l'année dernière aux éditions Gallimard?
Oui, j'avais été au siège de la maison d'édition et j'étais toute émue.
Oui, on avait fait une émission spéciale, oui. Paris et Angoulême.
Paris et Angoulême, oui.
Donc voilà.
Même combat.
C'est très intéressant, même pour les gens qui ne s'intéressent pas forcément au milieu de l'édition. Quoi. C'est vraiment une tranche de vie incroyable. On parle de la Seconde Guerre mondiale, on parle de plein de choses.
Oui, puis toutes ces rencontres, tout ce qu'il
y a. Voilà, oui, c'est vraiment passionnant.
Et Pierre Assouline écrit bien?
Pierre Assouline, oui, c'est vraiment le maître de la biographie. Il écrit des biographies très, très bien renseignées et bien écrites, c'est agréable.
Je le contacte alors.
Ça se lit comme un roman.
Si jamais il va écrire sur moi, autant que ça soit lui alors. Ok, dernière de l'année, voilà. On dit bonne année ou pas? Non, c'est trop tôt.
On se le dira en janvier.
On se le dira en janvier, l'année prochaine. C'est ça, merci à tous.
En tout cas, joyeuse fête.
Ah oui, fête à tous.
Ah oui, c'est la fête. Allez, la fête, on parle de...
Joyeuse fête. Bon,
poésie l'an prochain. Allez. Ciao tout le monde.
Ciao, bonne vacances.
Et
tout le monde.
Comme dit Valérie. Hein.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.